allez entendre le cinquième exposé d'une année de philosophie consacrée à l'ordre des choses. Cet exposé s'intitule « Le ver libre, une révolte contre l'évidence ». L'enregistrement est divisé en 5 épisodes d'environ 3 quarts d'heure. Entre chaque épisode, n'hésitez pas à aller lire les extraits des textes dont il est question. Ils sont accessibles sur le site écoledephilosophie.org, dans la rubrique « Cours ». Épisode 5, l'ordre insurgé, partie 2, et discussion.
Donc, du coup, de ce texte, de cette tâche du traducteur, je tire deux leçons pour du coup, le propos, pour revenir un peu là, on a fait un peu un écart vers le traducteur, mais pour revenir un peu vers la question qui est de voilà, la tâche du poète là. Premièrement, donc, si on suit Benjamin, les œuvres sont en dialogue avec leur langue d'abord, et pas d'abord avec leur lecteur. Elles sont d'abord en dialogue avec leur langue. Elles sont en dialogue d'un point de vue qui n'est pas uniquement de la sémantique ou de l'informationnel. Dit autrement, les poèmes, par exemple, ne disent pas forcément ce qu'ils disent au sens de la production de séquences de sens, quoi, exploitables par notre goût des choses sensées, enfin, voilà, raisonnées, quoi. La quête du sens n'est même pas forcément secondaire, hein, pour Benjamin. La quête du sens, pour Benjamin, elle entrave la compréhension de l'œuvre, en tout cas pour le traducteur. Et donc, une traduction de poème qui s'attacherait à en communiquer uniquement le sens serait ratée, comme j'ai dit. Et rétrospectivement, du coup, la deuxième leçon que je tire de ça, c'est que Gilkin, Boileau ou Kaiwa encore, reprochent, et Yourcenar aussi, reprochent à une certaine poésie, ce qui reproche, pardon, à une certaine poésie, c'est justement de ne pas être sensé, de ne pas être raisonnable. Donc finalement, c'est comme s'il lui reprochait d'accomplir sa tâche dans la langue, celle qui est, semble-t-il, voulue et décrite par Benjamin. Et cette tâche serait de refuser la clarification et l'évidence. L'évidence sémantique, stylistique, narrative, qui serait de, voilà, de communiquer du sens avec des phrases bien faites. La poésie, si elle est un ordre insurgé, c'est cet ordre qui, peut-être pas plus que les autres, mais peut-être que plus que les autres, ça je sais pas, atteste que le langage ne doit pas se courber nécessairement sous la domination de la communication du sens des mots. Et c'est le pari, je pense, du vers libre, en s'arrachant à la sémantique très signifiante de la règle classique, qui en elle-même est un sens. Elle est devenue si sophistiquée qu'elle parle d'elle-même, quoi, le vers régulier. Le vers libre retrouve, enfin cherche à retrouver, peut-être, ce que cette pureté que Benjamin incite à trouver pour le traducteur dans sa langue propre. Et donc on pourrait dire à cette étape que le chemin parcouru entre l'événement singulier, c'est-à-dire un changement formel dans la pratique d'un type de discours situé quelque part à la fin du XIXe siècle dans quelques pays d'Occident, bon, et le constat que la poésie comme l'ordre insurgé, vu comme l'ordre insurgé, dans lequel, via Benjamin, la communication est l'ennemi de la compréhension et de la pratique de la langue. Donc on pourrait dire que ce chemin-là, il est un peu bizarre, enfin, ou biscornu, ou je ne sais pas comment dire. Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est, je pense, certain, c'est que ce que la théorie des formes littéraires appelle le vers libre, qu'on a décrit en première partie, et que nous, on s'est attaché à vouloir décrire et replacer dans un écosystème éthique et esthétique, cette chose-là, le vers irrégulier, le vers libre, reste pour, si on regarde les 10 siècles qui précèdent, une étrangeté qu'on trouve singulière pour quiconque s'intéresse à l'histoire littéraire, quoi. Et que c'est là justement que revient une question éthique, et qu'on peut retrouver ce que je trouvais pas tout à l'heure, c'est-à-dire une version positive du rapport éthique aux formes. Une version désirable dans le fait de dire les formes sont des fonds. Ce n'est plus l'obsession classique du beau face au bien et au vrai, mais c'est plus en fait de la morale, quoi. C'est une forme d'éthique positive qui serait de dire que le forme est une forme et un fond au sein même des conditions du langage, au sein même, donc ce contre-ordre-là serait son éthique à lui, au sein des formes, au sein des conditions du langage, quoi. Et je trouve ça, enfin, je trouve ça positif, enfin, je trouve ça intéressant. Et cette bizarrerie du vers libre, par rapport à l'évidence du vers régulier, hein, en tout cas pour des gens dont on a parlé, vu à travers la théorie de la non, du non-communical de Benjamin, paraît d'un coup, je pense, moins bizarre, si on considère les formes comme des fonds, et si on regarde comme, après cela, se déroule la modernité littéraire et poétique. Puisqu'il y a le surréalisme au début du XXe, puis une sorte de radicalisation des avant-gardes, voilà, puis dans la deuxième moitié du XXe, on a quasiment, en tout cas dans beaucoup de... Enfin, la notion même de poésie explose, quoi, enfin, à un moment, quoi. Et ça, je veux dire, dans les formes postmodernes, le vers n'existe plus, et la poésie est même remise en question en tant qu'objet, quoi.
Jean, tu veux bien me dire ce truc sur c'est plus un rapport moral
Ouais. Ben, en fait, juste que dans tout ce qu'on a décrit de rapport éthique et esthétique, de rapport éthique aux formes du type classique, c'est un rapport moral. Le beau, c'est le bien. Et que là, je trouve que dans cette définition du contre-ordre, à savoir le vers cherche, au sein même des conditions majoritaires du langage, à s'approprier cette question enfin, à s'approprier cette question du non communicable, c'est-à-dire non, c'est-à-dire que le vers est un énoncé, serait un énoncé, où le sens, en fait, la communication du sens des mots ne serait pas la visée principale, l'expression des mots, l'expression de désignation sensée et compréhensible des mots ne serait pas la volonté principale dans le fait d'écrire un vers. Je trouve que c'est une vision positive d'une éthique des formes, dans le sens où, ben en fait, on n'est pas en train de dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On est plutôt en train de dire qu'il y a une forme qui nous apparaît et qui, en elle-même, a un effet sur nous et sur le langage. Et cet effet, c'est un effet qui est de l'ordre du système de valeurs. Parce que, voilà, si on le définit comme un contre-ordre au sein du langage... Bah, on peut dire, voilà, on peut continuer à aimer et ne pas aimer certaines poésies, ça change rien. Mais on comprend que la forme même du vers est, en étant ce contre-ordre-là, a une position éthique au sein du langage.
Mais juste, je suis pas sûr de comprendre pourquoi c'est peut-être un peu. Mais pourquoi finalement le vers classique il le ferait moins que le vers libre, dans le sens où finalement, tel qu'on l'a défini, le vers classique il répond à tout un tas de règles, mais qui sont jamais des règles sémantiques. Donc lui-même il a un confort au sein du langage autant que le vers libre, puisque il vient, se mettre par rapport, enfin prendre une position par rapport au sens des mots qui est en distance, qui est plus formel. Donc en fait, moi, j'adore ce que tu dis, mais je vois pas pourquoi on l'applique pas autant au sens au vers classique, en fait.
Bah,
c'est la poésie tout entière, en fait, qui est un contre-ordre.
Eh ben,
ce que tu veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, elle rentre dans une routine de contre-ordre et qu'il faut la réinventer, c'est ça.
Mais c'est un peu ça, mais en fait, je pense que peut-être que je me suis mal, ou peut-être que j'ai mal dit la chose. Mais pour moi, le vers, enfin, ce que j'ai dit sur le vers regroupe le vers régulier et le vers classique. C'est-à-dire que la possibilité du contre-ordre, c'est le vers. En tant qu'il est un énoncé. Non prosaïque, non prose, voilà, en gros. Mais que l'avènement du vers libre, pour moi, ce que ça montre dans ce que ça montrerait, je sais pas, dans ce régime-là, ce serait que l'émergence du vers libre atteste du fait qu'à un moment de son histoire, le vers régulier est devenu insuffisant parce que il s'est institutionnalisé, il est devenu une forme vide, enfin, ou une forme qui se vaut pour elle-même et qui ne vaut plus en tant que contre-ordre. Et c'est en ça que je trouve l'éthique, du coup, du vers, c'est bah, peut-être que l'émergence du vers libre atteste que c'est toujours un vers, pourquoi on l'appelle toujours vers, mais ça atteste que peut-être le vers régulier n'était devenu insuffisant pour la raison propre qu'il... On dirait qu'il s'est embourgeoisé, quoi, qui s'est genre, voilà, qui s'est, je sais pas comment dire, mais...
Il a
Géchon. Ouais. Bon, Donc le vers libre dans l'éthique qui nous concerne, qu'il est cette éthique-là qui est peut-être difficile de nommer, puisque il y a une, on parlait d'éthique et d'esthétique, mais c'est une éthique des une éthique de l'esthétique assez précise. C'est, enfin, on peut proposer genre un type, un truc du genre l'éthique des énoncés, puisque le vers libre est un énoncé. Au sein de l'éthique, ce qu'on appellerait une éthique des énoncés, ce vers libre est un énoncé qui se propose de dénier à la prose, tout comme aux énoncés de versification codée devenus institutionnels, leur statut de langue commune. Commune au sens pragmatique, voilà. Le vers propose une autre langue commune contre la première, quoi. Une langue commune qui ne serait pas une langue de communication, mais une langue commune au sens une langue de au-delà de la communication. Dans une éthique positive de la formulation de ce qui dépasse le sens des mots. Et donc l'émergence du vers libre, je pense, atteste que des poètes ont pu, à un moment, remettre en question leur propre outil. Et cet événement-là, il reste peut-être anodin, si on veut. Enfin, ça reste un événement qui... qui est très daté, qui est plus du tout dans nos questions contemporaines. Mais je pense qu'il peut être, il faut écouter ce qu'il a à dire de son petit point de vue, de nos liens et de nos manières d'utiliser les mots. Parce que la place du vers libre au sein de l'éthique, de cette éthique-là des énoncés, est de rappeler que la prose n'est pas le seul mode de langage, au seul titre de l'existence du vers. Le vers contrarie l'ordre dominant de l'usage des mots, qui est celui, par exemple, la prose, hein, c'est celui de l'usage de la philosophie, par exemple, l'usage prosaïque, et invite à considérer qu'il y a quelque part d'autres ordres, d'autres manières de dire, qui seraient pour la prose, peut-être pas mauvaises au sens moral, mais en tout cas indues, inconséquentes. Et qu'il faut investir ces ordres-là du langage. Le vers est au contraire, ici, peut-être à l'origine d'une éthique anormale des énoncés. C'est-à-dire qui refuse la normalité, quoi. Qui se sait et se proclame comme une singularité au sein même du langage unilatéralement conçu, souvent par les locuteurs et les prescripteurs, les personnes qui disent comment on doit parler, comme ayant des nécessités pragmatiques de communication. On doit. Voilà. La communication, c'est important, on le dit dans nos groupes d'amis, dans nos couples, dans nos lieux d'organisation politique. Oui, sans doute, c'est important la communication. Mais c'est important sûrement pour gérer et soigner nos dispositifs sociaux. Mais la tâche du poète, si on en suit, disons, cette interprétation de Benjamin que je fais, c'est bien de rappeler que si le langage, c'est uniquement la communication, il n'y a pas d'œuvre littéraire pour lui. Hein, si il se passe autre chose que de l'ordre de la communication, si le langage n'est que communication, pour Benjamin, il n'y a pas d'œuvre littéraire, puisque l'œuvre littéraire n'est pas de la communication, du sens. Et cette absence d'œuvre littéraire, d'ailleurs, je ne sais pas si ça serait un drame, hein, ça se trouve non, hein, mais en tout cas, ça aurait donné sûrement un autre monde, quoi. Et la tâche du poète est donc peut-être, d'aggraver et de pousser à bout l'existence concrète de cet ordre-là, de ce contre-ordre-là dans le langage, pour rendre visible, dans la forme même du poème ou des formes qu'il choisit, des choses qui sont vraies, hein, au sens fort, des mots qui servent à penser, mais qui ne sont pas de l'ordre de la pensée prosaïque, ou du langage prosaïque, pardon. Prosaïque, c'est-à-dire prose. Hein, voilà. Et c'est ici que, je pense, se touche définitivement, pour finir, éthique et esthétique, le vers, en tant que forme, vient renverser, ou en tout cas cherche à le faire, des valeurs dominantes qui ont cours dans l'usage même des mots, codées au sein de l'usage des mots, et qui se situent uniquement dans la communication et l'idée de la clarification sémantique, l'idée que tous les énoncés sont clarifiables. On peut toujours clarifier que, voilà. Donc le vers vient s'inscrire en faux contre ça. Et qui serait donc un ordre, un sujet au sein même de l'usage des mots. C'est ma conclusion. J'arrive à ma conclusion. Qui s'appelle « Pour une éthique des énoncés », très pompeusement. Qu'est-ce qui fait tenir ensemble les... mots, les phrases, les unités linguistiques que nous utilisons. De quoi est faite la patte de ces énoncés-là? Est-ce simplement de principes syntaxiques et sémantiques, d'un enchaînement de mots répondant à des idées qui nous traversent? Dans ce cas-là, le vers est absurde ou scandaleux. Peut-être pour certains, il l'est d'ailleurs. Puisqu'il travaille contre la clarification, contre la fluidité des mots, la fluidité de la communication des sens, contre le pragmatisme. Et il semble matériellement inexplicable dans nos recherches un peu existentielles de savoir ce qu'on fait là. Mais justement, non. Je pense que l'existence même de quelque chose comme le vers, et à la suite des textes que j'ai lus et des réflexions que ça a infusé dans l'exposé, l'existence du vers, c'est-à-dire d'une unité distinctive dans les occurrences de textes qui réfutent au langage son unicité d'intention, à savoir la communication du sens, ce refus de l'unicité de la communication du sens comme seule intention du langage, doit nous inspirer que les phrases disent aussi autre chose que ce qu'elles disent, autrement dit qu'il existe une éthique des énoncés, comme je l'ai dit, et pas simplement une pratique des signes ou une pratique des mots.
Tu peux redire ça.
Ouais. Le refus de l'unicité d'intention dans le langage, à savoir la communication du sens, des sens des mots, doit nous inspirer que les phrases, les énoncés, quoi, disent autre chose aussi que ce qu'elles disent. Autrement dit, qu'il existe une éthique des énoncés et pas simplement une pratique des signes ou des mots ou des phrases. Et que dans tous les énoncés qu'on prononce, même les plus prosaïques, même les plus indigents, il y a la trace d'une éthique, je pense. Et je pense du coup qu'il faut jeter un soupçon sur la vision du langage comme véhicule de communication, enfin comme unique véhicule de communication. Voilà. Et cette vision, elle est quand même partagée. C'est pour ça que je me permets de le dire, c'est qu'elle est, je suis pas le seul à penser ça, mais en même temps, il y a quand même la vision structuraliste, c'est une vision du langage comme communication, la vision sociologique aussi, souvent. Et la vision classiciste aussi, de la vision rationnelle, quoi. Et avec Benjamin, je pense qu'on peut brutaliser un peu cette idée. Et il faut contester au langage ces tendances un peu pragmatistes, quoi.
Attends, pardon, tu peux expliquer pourquoi la vision sociologique, elle fait du langage de communication?
Est-ce qu'on pourra... Je peux répondre maintenant, ou je peux répondre après, je finis la conclusion. J'ai juste un grief avec la vision du langage de Bourdieu, je pense que c'est juste ça. Donc il faut contester au langage ces tendances pragmatistes. Que le langage serait capable de porter un message qui serait uniquement ramassable dans des enjeux de définition, etc. Bon, comprendre une phrase, un texte, serait dans cette vision en décrypter uniquement la ligne sémantique. Serait être capable de la reformuler. Il faut pourtant rappeler que quand on dit à notre camarade de balade que le ciel est beau ce soir, on ne communique au fond pas grand-chose de sens. Et pourtant on parle. Voilà. À un niveau pré-linguistique, si on peut dire comme ça, déjà, en fait, les énoncés ne communiquent rien. C'est des phénomènes matériels, des surgissements de sons. Et dire cette banalité-là, ce n'est pas uniquement s'émerveiller de la pluralité des locuteurs, des langues et des dialectes. C'est aussi s'étonner que l'oreille de la personne qui écoute, même quand on ne décrypte pas les données sémantiques d'un enchaînement de sons, on peut savoir apprécier la qualité d'une langue ou d'une succession de sons qui ressemblent à une langue. Et notre oreille interprétative, elle prétend toujours trouver dans les surgissements des langues qu'on connaît, nos langues maternelles ou les langues qu'on a apprises, des clés décisives qui ouvrent, paraît-il, la porte d'une connaissance qui serait capable de se reformuler dans le sens, dans la reformulation, pardon. Or, l'exégète ou le mauvais traducteur, pour Benjamin, qui reformule clairement les propos d'un texte, est-ce qu'il l'a mieux compris que le naïf qui écoute le même texte, à moitié absent, mais qui est disponible au concret du phénomène sonore qui se passe autour de lui? Est-ce que, par exemple, les personnes qui ont pris beaucoup de notes ont mieux compris le cours que celles qui étaient un peu absentes à écouter et à regarder les autres? J'en suis pas sûr du tout. Voilà. C'est ce que j'essaye de dire. En somme, est-ce que comprendre, c'est vraiment savoir reformuler? Et la pratique du verre postule qu'il y a donc de l'irreformulable, qui est une proposition scandaleuse, hein, qui postule que il y a de l'irreformulable, que tout n'est pas lisible, que tout n'est pas clarifiable. Et que dans la pensée, dans la pratique prosaïque, on pense souvent qu'il suffit d'avoir les bonnes définitions des mots pour, ça recoupe ce qu'on disait sur les langues étrangères, pour comprendre ce qui est dit. Mais en fait, même les définitions, en fait, on prend le sens comme si c'était un donné, encore une fois, naturel, mais le sens des mots, les définitions, c'est... Elles se donnent elles-mêmes pour projet quelque chose qui est auto-référentiel. On n'extirpe pas une définition de son contexte de formulation, de son dictionnaire, de son ensemble structuré par une politique de définition. Donc chaque mot renvoyant à d'autres définitions, elles-mêmes, toutes les définitions sont prises dans un ensemble qui est en fait déjà idéologisé, quoi. Et le vers, c'est une trace peut-être que les énoncés ne peuvent pas se circonscrire à ces circuits-là d'information, que les énoncés du langage, quoi. Le vers montre qu'à un certain moment, la clarté échoue. En ce sens, donc, je le redis, le vers est encore un contre-ordre. Il rapatrie les mots et les significations dans une contrée insurgée de la pratique du langage. Et c'est ici que je pense la position de Kaiwa et de Yourcenar sur la poésie est en quelque sorte une manipulation, j'ai dit une perversion, bon, en tout cas une trahison de la poésie, mais même de la possibilité même de la littérature, je pense. Prétendre que la poésie bonne répondrait à une éthique textuelle de l'évidence et de la norme, je pense, trahit la pulsion qui semble nous agiter quand nous nous mettons à écrire des choses. Et même aux époques les plus codifiées de la poésie, comme celle de Boileau, celle où la clarté est édifiée en tant que principe éthique, on voit bien qu'il y a une étrange dissociation entre les préceptes et la réalité de la pratique. Et la normalisation voulue par Boileau n'a au fond que peu à voir avec des enjeux de pratique littéraire. C'est d'abord une recherche d'un consensus idéologique et l'invention d'une doxa qui ne fait qu'accompagner dans le champ de la théorie des énoncés littéraires l'avènement de la raison comme projet de domestication. Le vers n'est devenu une norme à défendre que quand des institutions, type Boileau, ou des êtres prétentieux se prenant pour des institutions, lui ont demandé de répondre de son geste. En dehors de ces moments, le vers suit son éthique et ne demande rien à personne, et surtout pas qu'on lui dise comment être lu. Ainsi, donc, le vers est le garant de la possibilité d'un contre-ordre au sein des usages du langage, et le vers libre serait donc le rafraîchissement un peu révolté à un moment de l'histoire de cette possibilité. Cette possibilité éthique de parler sans être obligé de dire, de parler sans devoir être clair. Parce que la parole en elle-même, sans le sens, sans la signification, contient déjà la réalité d'un lien, d'une contemplation, d'une vérité commune. Possibilité qui me paraît un enjeu de langage et de vie impérieux. Voilà. Merci. Ouais, est-ce qu'il y a des genre les questions peut-être juste répondre à Victor sur la sociologie là. Non, en fait, c'est juste je pense quand je dis la vision sociologique, elle est pas uniquement, enfin la vision sociologique du langage, enfin je pense à la vision de Bourdieu, mais peut-être que on va pas faire un long développement là-dessus, mais quand je dis qu'elle est uniquement tournée vers enfin qu'elle est uniquement en fait au bout du compte une vision du langage comme communication, c'est que j'ai l'impression que même quand Bourdieu, par exemple, parle du contexte d'élocution ou des choses comme ça, ou du fait que, en fait, il passe, j'ai l'impression que ça, là, il passe son temps à chercher des informations qui passeraient dans le fait de parler. Et enfin, c'est, mais après, bon, je sais pas. C'est juste que voilà, j'ai l'impression que la position que du coup je défends après Benjamin là, c'est de dire en fait que même la question de genre, en fait pour Bourdieu par exemple, les mots ont des sens, mais la manière de dire les mots ont un sens et que tout en fait est signifiant. Enfin, et c'est ça que moi avec quoi j'ai un problème. enfin en tout cas que ce que m'a inspiré un peu Benjamin, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui doivent être urgemment posées, importantes?
Les phrases disent autre chose que ce qu'elles disent. Moi, mon exemple intuitif, c'était un peu la critique féministe du langage, par exemple, de dire, en fait, la règle grammaticale masculine, encore, elle est signifiante. Elle
ouais.
Donc, il y a autre chose que le contenu sémantique du mot
ouais.
dans le langage. Ouais. C'est un exemple, hein, mais ouais. ne serait-ce que, par exemple, la structure sujet-verbe-complément, enfin, des exemples canoniques comme ça, signifie aussi quelque chose sur la façon dont du sens, enfin, des choses circulent dans le langage en dehors du sens des mots.
Ouais.
Du coup, c'est pas très bizarre que je veux dire, si tu viens de dire que c'est pas juste dire que c'est une
chose. Ouais, non, en fait, ce que je pense que j'essaye de dire à la fois quand je dis que la vision sociologique est une vision qui, en fait, ne se départit pas du tout d'une vision communicationnelle du langage, et quand je dis les phrases disent autre chose que ce qu'elles disent, je crois que c'est juste que... Je pense qu'en fait, dans la vision de Bourdieu, c'est juste qu'on en avait parlé l'an dernier, on avait fait, il y avait eu un moment sur le langage chez Bourdieu et tout ça, c'était super. Mais que moi, je me souviens m'être dit, mais... déjà, j'ai l'impression que du coup, la défense... Parce que Bourdieu attaque en règle, en fait, la linguistique, la science du langage, en disant qu'en fait, elle se trompe d'objet, elle ne voit pas ce qui se passe dans le langage vraiment et tout ça, et que lui, donc, il va donner des exemples et présenter sa vision sociologique. Et j'ai l'impression que chez Bourdieu, il y a beaucoup dans ce texte-là, je me souviens pas précisément, et donc je pourrais pas, genre, je pense, là, en parler, mais précisément, mais qu'en fait, il y a beaucoup cette idée que la linguistique... ne voit pas que le langage, c'est autre chose que justement simplement de l'analyse formelle. Et que lui, dans sa vision sociologique, il met en valeur qu'en fait, la manière dont les gens parlent, qui parle à qui, le contexte des locutions, les mots employés, sont des formes de distinction. Enfin, tout ça, c'est parti sur un système de distinction et tout ça, voilà. Et que ça, je suis au fond d'accord, je pense, mais c'est juste que je pense qu'il réduit le langage dans une certaine mesure à un outil de communication, y compris au niveau de, par exemple, je ne sais plus exactement quel exemple c'était, mais c'était cette personne qui s'exprimait d'une manière qu'en fait, alors peut-être que les personnes qui ont travaillé ce texte me corrigeront, mais qui en fait, dans lesquelles on voyait, on sentait qu'en fait, le rapport au langage... était un rapport qui était un peu, entre guillemets, genre... un truc de l'ascension sociale, il y avait un truc comme ça, C'était l'inverse ?
Si, c'est un Bernet qui a l'accent Bernet, qui fait ses
études
à Paris, et qui revient, il se permet de faire un truc, pareil. Il fait son discours municipal, là, avec l'accent Bernet. C'était n'importe qui, c'était un paysan qui parlait en Bernet, c'est trop la honte, mais comme lui, on sait qu'il parle avec... d'accent, enfin, qui parle de langage dominant, et bah, c'est stylé, enfin, c'est encore plus de style que de se permettre de parler avec l'accent.
En vrai, il y a moyen que je me trompe et que j'ai mal compris cet exemple-là et que du coup ça s'est ressurgi à ce moment-là dans mon exposé, et que du coup moi je me souviens m'être dit à ce moment-là, mais en fait, ce que Bourdieu est en train de dire, c'est que en fait, il y a le maire en prenant l'accent béarnais, on est toujours dans la communication, comment dire. Pour moi, prendre cet exemple-là, ce n'est pas dire que les mots disent autre chose que ce qu'ils disent. Enfin, c'est juste faire passer des informations dans le langage, mais y compris par ses aspects sonores et formels. Mais que là où je distingue peut-être du geste du vers ou de la poésie, ce serait de dire que, en fait, quand je dis les mots peuvent dire autre chose que ce qu'ils disent, c'est de dire qu'en fait, il y a une fonction qui peut être dans nos énoncés. Dépasse y compris même ce qui relève du non verbal ou de la communication non verbale ou du ou du voilà de ce qui passe dans la matière des mots qui nous fait comprendre des choses sur le locuteur et tout ça. En gros, que le langage a d'autres visées que la visée de communiquer des choses.
Je reviens sur ce que tu dis sur le Gilkin, ouais. Et sur le fait de comment dire que le fait de décodifier le langage, ça ferait courir le risque du nihilisme, tu disais ça tout à l'heure.
Ouais.
Et si je comprends bien ce que tu dis, c'est que ce risque-là, en fait, on le considère comme un risque uniquement si on voit le langage dans cette unique fonction-là.
C'est ça, c'est exactement ça, ouais. C'est ça.
C'est ça, parce que. Du coup, si on se met dans l'optique où il y a une seule intention du langage qui est du coup communicationnelle, alors je ne sais pas si Gilkin le dit comme ça, mais est-ce que l'enjeu, ce serait que du coup le langage n'exprimerait plus rien si on lui enlève sa régularité,
C'est ça. Enfin, je pense que du coup, comme tu le dis là, c'est-à-dire le langage n'exprimerait plus rien, c'est un sujet d'angoisse de gens comme Gilkin. Enfin, je veux dire, c'est genre le Mais pour le coup, Benjamin, dans son texte, dit à ce moment-là, le langage, enfin, ça ne vise et n'exprime plus rien, mais pour lui, c'est extrêmement positif, enfin, c'est extrêmement valorisé dans le sens où il faut chercher ce point où, justement, on n'exprime rien pour peut-être atteindre un rapport à la langue qui ne soit pas utilitaire, qui ne soit pas, voilà, et qui soit un rapport, véridique, existentiel à la langue, quoi. Je saurais pas comment le dire, quoi. Mais et du coup, oui, c'est carrément ça. C'est que je pense que c'est ce que je disais aussi sur la révolte contre l'évidence et la révolte contre la raison. C'est que tout d'un coup, en fait, s'il y a plus de raison, s'il y a plus de rationalité qui guide nos énoncés, qui guide nos manières de parler, nos manières de dire les choses, ce que dit Caillois, quoi. C'est le retour au primitif et tout. Enfin, la position classique, mais je pense que la position classique, elle est très, très évidente pour le coup. Enfin, je veux dire,
Mais c'est
la façon dont
sur le terrain moral, là, du coup,
oui. Oui. Attends, tu peux redire ?
Je dis que si là, par exemple, le risque de ce nihilisme-là,
ouais.
On n'est pas sur... je ne sais pas, c'est une question. Mm. Est-ce qu'il y a le plan moral, où est-ce qu'il arrive ? Parce que cette angoisse-là, existentielle, que le langage n'exprime plus rien, je veux dire, c'est pas forcément associé à une position réactionnaire.
Je sais pas. Pas forcément, mais je pense que... Bon, après, dans les exemples que j'ai choisis, il se trouve que... ils sont particulièrement, Gilkin, Boileau, Caillois et Ursenart sont, au sens fort, des classicistes. Enfin, je veux dire, des gens qui défendent... Enfin, ou même, je dirais même des traditionalistes, quoi. Des gens qui défendent des visions non seulement régulées, mais en plus prescriptives, quoi. Très, très fortement prescriptives de la littérature. Et du coup, on l'associe de fait à une question morale parce que c'est... Enfin, voilà, quoi. C'est-à-dire, face à ça, il y a... tous les gens qui ne sont pas dans la norme, du coup les fracassés, quoi, les crasseux, ceux qui écrivent pas comme il faut, ceux qui n'ont pas, du coup, qui sont pas légitimes, quoi, tout simplement, et que du coup de fait ça crée une partition morale du monde, quoi. Mais je suis d'accord que c'est pas aussi évident que ça de dire que l'angoisse, que le langage n'exprime plus rien, n'aboutit pas forcément à une position réactionnaire. Mais je dirais plutôt que pour renverser le truc positivement, que peut-être que ce que j'essaye de dire sur le verre, c'est que y a pas à s'inquiéter, quoi, tranquille, en vrai. Enfin, en fait, en vrai, on peut dire des choses de l'ordre qui nous affecte, qui ne soit pas pourtant de l'ordre de la communication de sens qu'on pourrait utiliser dans des stratégie de voilà, on cherche le sens, on le clarifie, on distingue les choses entre elles et tout ça. On dit, ah ouais, mais là tu dis ça, mais en fait il faudrait peut-être le dire comme ça. Enfin, tout ce qu'on fait quoi dans la vie, et notamment à l'école de philo. Et ben, ce truc-là, j'ai envie de dire que c'est que le vers vient peut-être dire face à ce truc-là, ben, y a des manières d'aborder les énoncés qui seraient de dire qu'en fait on peut dire des choses sans qu'elles nécessitent une réponse, sans qu'elles nécessitent une reformulation. Sans qu'elle, mais juste que l'énoncé est là et le prendre pour ce qu'il est, quoi. Enfin, c'est très naïf peut-être, hein, mais c'est ça que j'appelle l'éthique de l'énoncé du vers, quoi. C'est postuler que c'est pas reformulable parce que en fait, on demande pas à ce qu'il soit. Enfin, on demande, enfin, je sais pas, pour les personnes qui lisent de la poésie, est-ce qu'on vous explique, enfin, je veux dire, nous dans le groupe poésie, on s'est beaucoup attaché à se lire des poèmes sans se les expliquer, sans se dire ce qu'il voulait dire. Et je pense que c'est un geste qui est important. Je veux dire, si on considère que le vers sait ce que je dis là, ce qui n'est pas forcément évident. Mais... Voilà. On va manger ou quoi ?
Fin de l'épisode 5 et fin de l'exposé, le vers libre, une révolte contre l'évidence. Vous pouvez retrouver la bibliographie des extraits de texte ainsi que les autres exposés sur l'ordre des choses sur le site écoledephilosophie.org.